Gloire à notre Dieu. J'aimerais plus simplement ajouter un petit élément au dernier point que nous avions regardé ensemble mercredi dernier, mes frères et mes sœurs, par rapport au fondement de l'Église. On avait vu que l'Église a, en quelque sorte, hein, je dis bien, en quelque sorte, et je l'ai déjà expliqué, un fondement principal et un fondement secondaire. On pourrait dire un double fondement, dont l'un étant le principal et l'autre le secondaire. En l'occurrence, le fondement christique est principal, est le principal fondement, et le fondement apostolique est le fondement en second, qui est érigé, qui est donné par Christ selon le pouvoir, l'autorité, la grâce qu'il a accordée aux saints apôtres. Et alors, pour, eh bien, dispenser son enseignement, codifier son enseignement, faire part de son enseignement, de ce qu'il a dit et fait. C'est les saints apôtres qui nous ont transmis ce qu'il a dit et fait. N'oubliez pas cela. Donc, en ce sens, oui, nous avons été édifiés, comme Saint Paul l'a dit, sur le fondement des apôtres. Alors, qu'est-ce que je voulais dire pour aujourd'hui rapidement, avant qu'on termine avec ça, c'est que les églises qui s'appellent églises apostoliques, églises... Vous pouvez entendre l'Église de Dieu apostolique ou de l'Église apostolique. Donc, avec ce que je vous ai dit mercredi dernier et que je viens de vous rappeler ici, c'est juste ça que je veux dire. Hein. Et vous comprenez que, au sens biblique du terme, au sens spirituel du terme, toutes les vraies églises sont apostoliques. Hein. Si quelqu'un appelle son église église apostolique de l'Oratoire, ou bien église apostolique de Jérusalem, ou bien des Gonaïves, ou bien des Cayes, ou bien de Montréal, c'est bien. Il a choisi un nom avec son comité d'église, son conseil d'église pour son église qu'il va donner. Pas de problème. Et toutes les églises bibliques sont apostoliques. Une église apostolique, toutes les églises qui suivent l'enseignement des apôtres sont des églises apostoliques. Non, c'est une façon de parler quand quelqu'un dit, moi, nous, on est de l'Église apostolique. Mais nous aussi, à l'oratoire, nous sommes une Église apostolique. Voyez-vous? Donc, la même chose pour l'Église catholique. Toutes les églises bibliques, voyez-vous? Toutes les églises bibliques sont apostoliques. Dans le sens qu'ils relèvent de l'Église universelle, font partie de l'Église universelle. Toutes les églises saines, saintes, sanctifiées, rachetées, qui suit le Christ et sa parole, eh bien, sont des églises catholiques. Nous sommes une église catholique en quelque sorte. Je ne veux pas vous mélanger, je ne veux pas dire davantage là-dessus, je ne veux pas vous mélanger, comprenez-vous? Donc, les dominations nous jouent des mauvais tours. C'est ce que je veux vous dire. Toutes les églises sont pentecôtistes parce que je vous ai dit que l'église est née à la Pentecôte. Donc, ce n'est qu'une façon de parler quand un tel dit, nous, on est de l'église pentecôtiste, vous êtes baptiste. Toutes les églises sont baptistes. Dans ce sens-là, hein, c'est-à-dire, je dis bien, dans le sens biblique profond du terme, voyez-vous? Donc, alors, terminé pour ce chapitre-là. Alors, je voulais juste attirer votre attention sur un petit peu les termes, l'importance des termes parfois, et comment aussi parfois les gens utilisent les termes sans trop, on se demande s'ils les comprennent bien. Et voilà, donc c'est terminé pour cette partie-là. Aujourd'hui, nous allons continuer après avoir regardé. Le mercredi dernier, le fondement de l'Église, dont je viens de rappeler la conclusion, on pourrait dire. Nous allons regarder, ça vous le connaissez très bien, tous ceux qui ont été assis sur une classe de préparation de baptême, ou bien au baptême, vous le connaissez et vous le savez. Aujourd'hui, nous allons regarder les ordonnances de l'Église. C'est bien important de se faire rebattre les oreilles sur cette vérité. Eh bien, touchant l'Église en général, l'Église universelle et en particulier l'Église locale. Donc, les ordonnances de l'Église, nous allons regarder cela ce soir, mes frères et mes sœurs. Quand on parle d'ordonnance, on parle de rite. Hein? Nous n'avons pas le même nombre d'ordonnances que les catholiques ou beaucoup d'autres congrégations encore. Nous en avons deux. Nous avons deux ordonnances. Nous avons deux rites extérieurs, deux rites visibles que le Christ nous donne à suivre en tant que chrétien, en tant que membre d'Église, en tant qu'Église, en tant que leader d'Église. Hein? Deux ordonnances deux signes visibles, hein, je dis bien deux signes visibles pour reconnaître l'Église, ou bien pour reconnaître l'appartenance à l'Église, hein, l'acte d'appartenance à l'Église, la participation au corps de Christ, l'intégration, l'incorporation au corps de Christ se voit dans le visible, hein, dans l'extériorité des choses, eh bien, à travers deux ordonnances, à savoir le baptême et la Sainte Cène, hein, la Sainte Cène qu'on appelle aussi le repas du Seigneur, hein, la communion de la table, hein, du Seigneur. Deux, il y en a deux. Ah, bien important. Le Christ a laissé ces deux ordonnances et juste avant son ascension, hein, peu après sa résurrection et juste avant son ascension, il a commandé à ses disciples d'aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisant, hein, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, nous trouvons, eh bien, l'ordonnance du baptême dans cette recommandation du Seigneur, dans cette ordonnance du Seigneur à faire des disciples. Nous avons l'ordonnance spécifique qui est le baptême. Et les saints apôtres ont bien retenu leur leçon. Les saints apôtres, dont nous avions amplement parlé, mes frères et mes sœurs, mercredi dernier, ils ont amplement retenu et la leçon qu'ils ont apprise, l'enseignement reçu, hein, et du Seigneur, l'encouragement, l'exhortation et la demande reçue du Seigneur. Et incidemment, ils n'ont fait que cela, hein? Ils n'ont fait que cela. Enseigner et prêcher la repentance et puis baptiser les gens, hein? Et l'apôtre Pierre, par exemple, Actes chapitre 2, le verset 38, proclamera: repentez-vous, hein, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Ils ont suivi l'ordre du Christ. Ils nous ont laissé cette pratique, hein, et en héritage, hein, comme un exemple à suivre. Et c'est ce que nous aussi nous faisons à la suite des saints apôtres. Mes frères et mes sœurs, lorsque les apôtres prêchaient la parole de Dieu, et lorsqu'ils prêchaient l'évangile de la résurrection, l'évangile de la mort du Christ, eh bien, et lorsque les gens autour, les gens touchés par leur message, leur proclamation, et ils répondaient au message du salut qui est proclamé, ce qu'on voit, c'est que ces gens-là reçoivent immédiatement le baptême. Nous aurons à regarder cela en détail lorsque le jour viendra où le Seigneur nous fera la grâce, eh bien, de parcourir, eh bien, le livre des Actes des apôtres. Mais la plupart du temps, ce qu'on voit, c'est qu'à partir du moment où les gens sont touchés, sont convaincus de péché, de justice et de jugement par le Saint-Esprit de Dieu, ils acceptent le message de grâce, de salut, eh bien, ils reçoivent le baptême sans tarder. L'acte de baptême a été souvent immédiat, mes frères et mes sœurs. Donc, la repentance, la foi et le baptême, c'était des éléments liés dans l'Église naissante. Dans l'Église naissante, la repentance, la foi, hein, et le baptême, c'était des réalités qui étaient liées étroitement les unes aux autres, mes frères et mes sœurs. La foi amène la repentance et la repentance amène le baptême dans cette liaison étroite, hein. Et le baptême suivait la repentance. Le baptême n'amène pas la repentance. Le baptême suivait la repentance. C'est bien important de comprendre cela. Et si le baptême suivait la repentance, il va sans dire que le baptême suivait la foi. Le baptême suivait et la foi. Ce n'est pas la foi qui suivait le baptême. Le baptême venait après la foi. C'est très important de comprendre cela. Le baptême ne contribue pas au salut. Le baptême n'est pas une voie de salut. Le baptême que nous administrons à l'oratoire ou à n'importe quel autre églisseur, ce baptême-là ne donne pas accès au salut, contrairement à ce que, eh bien, certaines sensibilités doctrinales dites chrétiennes croient. Hein? Nous ne croyons pas que le baptême sauve. Le baptême ne sauve pas. Hein? C'est bien important de comprendre cela. Le baptême suivait le salut. Le baptême est une conséquence du salut. C'est la personne qui est sauvée qui demande à être baptisée. Hein? L'exemple de Corneille est là pour nous en convaincre. Hein, frères et sœurs, Corneille, hein, Corneille a été baptisé seulement après avoir reçu le Saint-Esprit. Qui dit après avoir reçu le Saint-Esprit? Dit après avoir été sauvé. Hein, dit après avoir été régénéré. Dit après s'être converti. Dit après avoir accepté, eh bien, le salut que Jésus offre, après avoir cru. Et selon Actes chapitre 10, les versets 44 à 48. Quand vous lisez la Bible, vous avez sûrement remarqué, en parlant de baptême, vous avez sûrement remarqué que pas beaucoup de fois, mais certaines fois, quelques fois, on parle de baptême de Jean et on parle de baptême de Jésus-Christ, hein? Baptême de Jean ou de baptême de Jésus-Christ ou de baptême du Saint-Esprit ou de baptême du Nouveau Testament. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une différence entre le baptême de Jean? De quel baptême as-tu été baptisé? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Je crois que c'est quelque chose, puisque nous parlons de baptême, nous allons ouvrir une parenthèse pour répondre à cette question rapidement. Est-ce qu'il y a une différence entre le baptême de Jésus-Christ, le baptême du Saint-Esprit et le baptême de Jean? La Bible parle du baptême de Jean dans Actes chapitre 10, verset 37, Actes chapitre 13, verset 24, 18, verset 25, et maintenant en Actes 19, verset 1 à 7, voici ce que nous lisons pour développer cette parenthèse qui me semble importante pour la doctrine. Importante pour la doctrine. Actes chapitre 19, verset 1 à 7. Pendant qu'Apollos, je lis pour vous, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, je lis Actes 19, verset 1 à 7, pour essayer d'expliquer la différence entre le baptême de Jean, puisque l'Écriture note le baptême de Jean et le baptême du Saint-Esprit, de Jésus-Christ. Alors j'essaie d'ouvrir une parenthèse là-dessus pour donner quelques pistes de compréhension. Et nous n'avons pas entendu dire, ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? En parlant de Paul qui leur pose la question, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Mais la différence est là. La différence est là. Jean a baptisé du baptême de repentance. Le baptême de Jean a été un baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui. C'est-à-dire en Jésus, explique Paul. Au verset 5, Actes chapitre 19, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul, voyez-vous, donc il fut baptisé du baptême de Jésus, baptême de Jean, baptême de Jésus. C'est de ça que je parlais en introduction. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Donc, vous le voyez, la différence est là. Hein? Le baptême de Jean, c'était un baptême de repentance. Un baptême de repentance, donc le baptême du Saint-Esprit n'est pas un baptême, le baptême de Jésus-Christ n'est pas un baptême de repentance. Hein? C'est celui qui se repent, qui se baptise ou qui se fait baptiser dans le cadre du baptême du Saint-Esprit, dans le cadre du baptême de Jésus-Christ. Hein? Pourquoi on l'appelle baptême de Jésus-Christ? Mais parce que on est baptisé au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit de Dieu. Hein? Bien important de comprendre cela. Et c'est le Christ qui a institué son baptême. Alors, le baptême de Jean, c'était, la différence est claire. Suivant ce passage, le baptême de Jean était un baptême de repentance, mais très important de noter cela. Un baptême de repentance en plus. Un baptême de repentance en vue, en prévision de l'entrée dans le royaume que Jean avait promis. Jean dit que Jean a fait ce que les saints prophètes ont fait, il a annoncé la venue du royaume de Dieu, et en prévision de l'entrée dans ce royaume-là, ceux qui se faisaient baptiser par Jean démontraient qu'ils étaient prêts pour recevoir ce royaume, qu'ils étaient prêts pour la venue de ce royaume. Mais le baptême de Jean, cela dit, pointe vers le vrai baptême. Le baptême de Jean pointe vers le baptême du Saint-Esprit, qui est le baptême spirituel dont on a parlé amplement et dont on va parler tout à l'heure. Et aussi, par la suite, le baptême de Jean, cela dit, eh bien, c'était un baptême en prévision du baptême d'eau que nous administrons dans l'Église locale sur instruction du Christ, qui est le maître, le chef, le fondateur et le propriétaire de cette Église. Donc, le baptême de Jean, eh bien, c'est une annonce, est annonciateur du baptême de Jésus-Christ. Donc, ce ne sont pas la même chose. Hein. C'est deux baptêmes différents, l'un étant annonciateur de l'autre, c'est-à-dire celui de Jean étant annonciateur de celui du Christ. Que vous le preniez dans le sens spirituel du terme, c'est-à-dire quand on est baptisé dans le Saint-Esprit pour incorporer l'Église, on a parlé de ça la fois passée, pour incorporer l'Église de Jésus-Christ, mais que ce soit le baptême d'eau en Église locale, qui est un symbole de notre union avec Christ, de notre baptême du Saint-Esprit, qui est une manifestation visible, eh bien, de notre baptême dans le Saint-Esprit, qui lui est invisible. Voyez-vous? Donc, bien important de comprendre cela. Donc, le baptême de Jean. Et maintenant, regardons Matthieu chapitre 3, versets 1 à 12, toujours pour comprendre la position biblique par rapport à ce baptême. Matthieu 3, verset 1 à 12, mais nous allons limiter la lecture au verset 7. Mais voyant venir à son baptême, beaucoup de pharisiens et de sadducéens, Jean leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, verset 11, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi, tel que Paul vient de l'expliquer à ses bien-aimés-là, en Actes chapitre 19, nous l'avons lu ensemble, et voilà d'où Paul a tiré l'explication qu'il avait fournie à ses bien-aimés-là. Et moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Voilà en quoi votre serviteur vous a dit que la différence est très réelle, est très nette, est très grande entre le baptême de Jean et le baptême de Jésus-Christ, en ce que celui de Jean préfigure et annonce, typifie bien le baptême de Jésus-Christ, ou alors le baptême du Saint-Esprit dans l'esprit de Jésus-Christ. Hein. Alors, donc voilà, et je pense que ça règle le problème maintenant. Donc, vous êtes en mesure d'expliquer à ceux qui vous entourent, qui vous posent des questions sur et là, qu'est-ce que ça veut dire le baptême de Jean et qu'est-ce que ça veut dire le baptême du Saint-Esprit, alors quelle est la différence entre les deux. Et je pense que vous êtes plus armé que vous l'étiez déjà par la grâce de Dieu pour expliquer le sens des deux baptêmes. Et donc, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de chicane entre les deux. Et à mes frères et mes sœurs. Maintenant, nous allons voir la signification de l'ordonnance du baptême ou du baptême tout court, bien important. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé à le dire, le baptême est un symbole, hein? Le baptême est un symbole, gloire à Dieu, un symbole, un symbole de l'identification du croyant avec Christ dans sa mort. Nous y sommes, hein? Nous sommes dans la semaine de commémoration de la mort du Christ. Ça nous amène aussi à réfléchir sur le baptême. Donc, je crois que le Seigneur a bien fait les choses. Hein? Le baptême est un symbole de l'identification de l'oratoire de chaque chrétien, de chaque chrétienne, de chaque homme de Dieu, de chaque femme de Dieu de l'oratoire, hein, avec son Seigneur dans sa mort. Hein. Nous associons déjà à notre Seigneur dans son ensevelissement, dans sa mise en terre, dans son inhumation. Et Dieu merci, par le fait même, si nous sommes morts avec lui, mais nous sommes ressuscités avec lui. Et le baptême est un symbole de notre résurrection avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, frères et sœurs, mes bien-aimés. L'apôtre Paul dira ceci en 2 Colossiens chapitre 2, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, frères et sœurs. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste, hein, voici la définition de Saint Paul du baptême, de la circoncision, frères et sœurs, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, voici la vérité, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Quand nous parlons de la mort de Jésus, chaque jour, quand nous allons parler de la mort de Jésus plus tard, Dieu voulant, demain, après-demain, vendredi, Dieu voulant, samedi, frères et sœurs, quand nous allons méditer, réfléchir, lorsque des saintes larmes vont devoir couler de nos yeux, en pensant au saint et grand et glorieux sacrifice que le Fils de Dieu a enduré pour nous au calvaire, nous allons par le fait même penser, réfléchir et méditer sur la grâce de notre union avec Jésus-Christ dans sa mort, dans son inhumation, dans son ensevelissement et dans sa résurrection, frères et sœurs. Les deux viennent ensemble, ayant été ensevelis, Colossiens 2, verset 12, avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses, dit Saint Paul, et par l'incirconcision de votre chair, le Christ, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Et c'est à la croix, ça a été bien chanté. Il y a eu des textes bibliques bien appropriés qui ont été lus en ce sens tout à l'heure, frères et sœurs. Il vous a rendu à la vie. Voilà, Voilà pourquoi nous sommes Église. Voilà ce qui a fait de nous Église. Quand nous parlons d'Église, nous sommes Église grâce à la mort du Christ. Dans la mort du Christ, par la mort du Christ, nous sommes devenus Église. Si Christ n'était pas mort, nous ne serions pas Église. Nos péchés ne seraient pas pardonnés. Nous ne serions pas unis avec Christ, frères et sœurs. Il vous a rendu à la vie avec lui. Donc, une mort qui a produit la vie. Bien important de comprendre cela. Une mort qui a produit la vie. Quand la mort de la vie a été une réalité, c'était pour produire la vie. Je répète, quand la mort de la vie s'est produite, quand la mort de la vie s'est produite, c'était pour produire la vie éternelle. C'était pour produire la vie en abondance. Quand la mort de la vie s'était produite au calvaire, c'est la vie qui était morte au calvaire. Mais la vie était morte pour donner la vie sans mesure, pour donner la vie éternelle. Bien important de vous rappeler, eh bien, la grâce, eh bien, de ce sacrifice, les bienfaits de ce sacrifice ce soir, c'est ce qui fait de vous, Église. Vous étiez morts, nous étions morts par nos offenses et par l'incirconcision de notre chair. Mais le Christ nous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour tous nos péchés. Donc, avoir ces péchés pardonnés, c'est avoir la vie. Le pardon des péchés, c'est la vie, hein? Le pardon des péchés, c'est la vie. Voir ou avoir ses péchés pardonnés, être justifié, c'est avoir la vie. Gloire à notre Dieu. Être circoncis de la circoncision du cœur, de la circoncision spirituelle opérée par l'Esprit de Jésus-Christ, eh bien, c'est avoir la vie, frères et sœurs. Et au verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il y a donc maintenant, dit Saint Paul ailleurs dans l'Écriture, eh bien, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Christ est mort. Béni soit l'Éternel qui est mort pour nous, qui a donné sa vie pour nous, qui a versé son sang pour nous. C'est grâce à son sang que les dominations, les autorités ont été dépouillées. C'est grâce à son sang que les autorités ont été livrées publiquement en spectacle. C'est grâce et dans sa mort qu'il a triomphé des autorités, des dominations à la croix du calvaire infâme à Golgotha. Et donc, c'est grâce à son sang que nous sommes l'Église aujourd'hui. Gloire à notre Dieu. Par le baptême, l'Église, l'enfant de Dieu, le croyant, l'Église individuelle, l'Église locale, l'Église universelle. Ah, ces thèmes sont devenus plus clairs pour vous, j'imagine, j'espère. Hein? L'Église individuelle, juste Ergo, juste Miketa, juste André, juste Pierre, juste Jacques, etc. Juste un individu, c'est l'Église. N'oubliez pas cela. Et puis, l'Église locale ensemble, l'Église universelle ensemble, eh bien, par le baptême, nous témoignons que nous sommes en Jésus-Christ, hein? Lorsque le Christ a été jugé à la croix pour le péché de l'humanité. Bien. Il a été le seul jugé digne, hein, à verser son sang pour porter mes péchés, pour porter mes iniquités, pour porter nos péchés, nos iniquités au calvaire. L'Église a été ensevelie avec Christ. Chaque homme, chaque femme, comme je l'ai dit, et chaque homme, chaque femme est ressuscité avec lui pour une vie nouvelle. Le baptême symbolise que nous sommes identifiés avec Christ. Hein? Le baptême symbolise que nous sommes identifiés avec Christ parce que nous sommes baptisés dans le nom de Jésus, comme je l'expliquais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est lui qui a institué le baptême. C'est son ordonnance. Voyez-vous? Donc, notre identification baptême se produit lorsque nous avons invoqué le nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Lorsque nous avons accepté que Jésus est la personne, que Jésus est celui qui détient le pouvoir, l'autorité, la sagesse, la dignité, la capacité, eh bien, de pardonner nos péchés, de nous réconcilier avec le Père, de faire de nous enfants de Dieu, de nous sauver de nous-mêmes du péché et de ses conséquences, eh bien, c'est ce qu'on appelle s'identifier à Jésus-Christ dans sa mort. Voyez-vous, on parle tout à l'heure d'identification à quelqu'un, à Christ dans sa mort. Mais ce que ça veut dire, ça veut dire croire en sa personne et en son œuvre. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Et dans s'identifier avec Christ dans sa mort et sa résurrection. On sait très bien que c'est de cette manière que cela se passe en termes de confession, en termes de profession de foi. Mais en réalité, dans notre corps, c'est ce qui se passe. Dans notre âme, c'est ce qui se passe. Parce qu'effectivement, il vit en nous, nous vivons en lui. Lui et nous sommes devenus un. Pour vrai, hein? Ce n'est pas juste une confession. Hein? C'est que dans la réalité, c'est ce qui se passe. Nous ne pouvons pas le voir, mais nous pouvons le vivre. Nous pouvons le sentir que nous sommes un avec Christ, que nous vivons en Christ, que Christ vit en nous. Mes frères et mes sœurs, cette identification baptême, dis-je, au plan de la confession, au plan de l'acceptation du salut, au plan de la conversion, ça se passe lorsque nous avons invoqué le nom du Seigneur pour notre salut. Paul a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et bien, lorsque nous avons, en tant qu'Église, hein, avant d'avoir été l'Église, hein, lorsque pour devenir Église, nous avons invoqué le nom du Seigneur Jésus et que nous avons été sauvés, c'est à ce moment-là que nous nous sommes identifiés avec lui dans sa mort. Voyez-vous? Et cela dit, comme je vous ai dit, mais cela se passe en réalité d'une manière, passez-moi une expression que je vais mettre entre guillemets, d'une manière mystérieuse que personne ne peut pas comprendre, hein, que personne ne peut pas expliquer. Hein, on constate seulement qu'il vit en nous et il déclare qu'il vit en nous. Hein, et nous en lui. Hein. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voyez-vous? Alors, bien important de comprendre qu'est-ce que c'est que cette affaire que nous sommes identifiés avec Christ par et le baptême dans sa mort et sa résurrection. Donc, comme je l'ai dit, avant le baptême d'eau, ça voit la repentance. C'est celui qui croit, hein, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Hein, voyez-vous? Bien important de comprendre cela. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Cela ne veut pas dire que sauvé vient après le baptême. Même si le texte dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais non, ça veut dire tout simplement que celui qui aura été sauvé, mais c'est lui qui se fera baptiser. C'est bien important de comprendre cela. Donc, et cela dit, j'arrive à quelques points de discorde entre nous et quelques autres sensibilités doctrinales, mais il n'y a pas de chicane, mais c'est juste des différences, OK? Et Marc chapitre 16, verset 16 dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Bon, voyez-vous, c'est grâce au deuxième membre de la phrase que nous comprenons le premier membre. Le premier membre sur lequel certaines sensibilités doctrinales essaient d'élaborer des doctrines fausses qui vont dire que le baptême sauve, eh bien, le même texte nous dit que le baptême ne sauve pas. Hein? Celui qui croira, Marc 16, verset 7, et qui sera baptisé sera sauvé. Ça veut dire c'est celui-là qui a été sauvé. Hein? C'est celui-là qui a été sauvé. Donc, son salut ne viendra pas de son baptême. Voilà pourquoi, au deuxième membre de la phrase, il n'est pas dit, mais celui qui ne croira pas et qui ne sera pas baptisé. Voilà pourquoi le deuxième membre ne le dit pas. Le deuxième membre montre que c'est croire qui amène au salut, qui est important. Et voyez-vous, celui qui ne croira pas, c'est lui qui sera condamné, pas celui qui ne croira pas, et qui ne sera pas baptisé. C'est juste celui qui ne croira pas qui sera condamné. Voyez-vous, donc, le deuxième membre explique le premier membre de la phrase. Bien important de comprendre cela. En sorte que, s'il y a des situations en Haïti actuellement, ou bien dans n'importe quel pays, dans la bande de Gaza, et puis vous et moi, nous sommes en train d'évangéliser en Haïti, nous avons eu le temps d'enseigner la parole de Dieu, il y a des gens qui ont cru à cette parole-là, une fois que vous et moi nous tournons le dos, et puis ces gens-là font le grand voyage pour l'éternité, eh bien, Marc 16, verset 16, nous dit que ces gens-là iront tout droit directement dans le paradis parce qu'ils ont cru. Parce que c'est celui qui croira, hein, c'est celui qui croira et qui sera condamné. C'est celui qui ne croira pas qui sera condamné. Alors, ces gens-là ont cru, même s'ils n'ont pas eu le temps d'être baptisés parce qu'il n'y avait pas d'eau dans l'entourage, pour les baptiser tout de suite, immédiatement, ils iront directement au ciel. N'oubliez pas que parmi les deux larrons qui étaient aux côtés du Christ, il y a un qui est dans le paradis qui peut être baptisé. Vous vous rappelez? Alors, c'est bien important de comprendre cela. Il est allé au paradis directement, il n'est pas passé par le baptême. Et le Christ dit, au jour du même, tu seras avec moi dans le paradis. Pas de baptême. Donc, est-ce que cela signifie que le baptême n'est pas important? Non. Et le Christ dit, voyez-vous, c'est ça l'équilibre. Il demande de baptiser, mais il peut arriver que quelqu'un ne soit pas baptisé pour des raisons indépendantes de sa volonté, de la volonté de l'Église, des leaders. Et puis, cette personne est sauvée parce que ce n'est pas le baptême qui sauve. Bien important de comprendre cela. Donc, l'ordre biblique est le suivant, je le rappelle. La repentance, numéro 1. La foi, numéro 2. Le baptême, numéro 3. Frères et sœurs, je vous baptise d'eau, dit Jean, Matthieu chapitre 3, le verset 11, pour vous amener à la repentance. Quand il dit « Je vous baptise d'eau », Matthieu 3, verset 11, pour vous amener à la repentance, on a, en grec, on a le même équivalent en acte 2, le verset 38, quand l'apôtre Pierre dit « Que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, Jean reconnaissait certainement que la repentance, eh bien, était l'acte numéro un dans le processus, eh bien, de repentance, foi, baptême. Eh bien, le pardon vient avant le baptême. Le salut vient avant le baptême. La vie éternelle vient avant le baptême. Ce n'est pas le baptême qui sauve, mais c'est plutôt Jésus-Christ qui sauve. C'est plutôt le pardon des péchés qui nous donne accès au salut. Si nous confessons nos péchés, dit le même Jean, 1 Jean 1er verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ce n'est pas quand quelqu'un est plongé dans le bassin ou bien la citerne à l'oratoire, ou bien dans le baptistère à l'oratoire qu'il est purifié de son péché. Loin de là, c'est quand il a dit « Seigneur, me voici, je sais que tu es venu pour me donner la vie, je sais que je suis condamné, eh bien, à mort, je suis sous la condamnation, sous la colère sainte, juste et de Dieu, eh bien, prends ma vie, je te la donne. » C'est en ce moment-là que cette personne a été purifiée, il a été pardonné et il s'est identifié avec Jésus-Christ dans sa mort et sa résurrection. Donc, ce n'est pas le baptême d'eau qui amène cela, frères et sœurs. Bon, maintenant, nous avons parlé amplement du baptême comme étant l'une des ordonnances du Christ pour l'Église. Nous avons regardé quelques éléments à côté en parlant, par exemple, de la différence entre le baptême de Jean et le baptême de Jésus-Christ. Et nous avons vu la signification du baptême à résumer en ceci, c'est un symbole de notre identification de notre avec Christ, c'est le symbole visible de notre identification avec Christ dans sa mort et sa résurrection. Et j'ai expliqué qu'est-ce que ça veut dire s'identifier avec Christ dans sa mort et sa résurrection. Ça veut dire simplement croire en Jésus-Christ. Hein? Donc l'identification, c'est un acte de foi. Croire en Christ, c'est s'identifier à lui. Croire en Christ, c'est s'identifier à lui. Avoir la foi au Christ, c'est s'identifier au Christ. Avoir la foi au Christ, c'est quoi? Mais c'est croire en la personne du Christ et en son œuvre. Mais remarquez bien, on ne peut pas dissocier la personne de son œuvre. Qui dit quoi en Jésus-Christ, c'est croire en sa personne et en son œuvre. Parce qu'on ne peut pas dissocier le sauveur de son œuvre, hein, de son œuvre ou de salut, mes frères et mes sœurs. Maintenant, voyons rapidement quelques modes du baptême. D'abord, il y a des gens qui font le baptême par aspersion. Hein? Donc, vous les connaissez, je ne les nommerai pas, et en onde. Il y en a qui font le baptême par aspersion, il y en a qui font le baptême par effusion, et il y en a qui font le baptême par immersion. Et vous savez que vous et moi, nous, en tant que baptistes, j'ai enseigné là-dessus déjà dans la congrégation, dans mes premières années de ministère, chez vous, j'ai déjà parlé pourquoi nous sommes baptistes par rapport au baptême, pourquoi nous nous appelons aussi baptistes, baptistes, baptizo. Alors, nous croyons en tant qu'Église baptiste, nous croyons dans le baptême par immersion. Hein? Bien important de comprendre cela. Le baptême par immersion, hein, c'est le baptême qui symbolise le mieux. Une des raisons pour laquelle nous, à l'oratoire, nous croyons dans le baptême par immersion, c'est parce que le baptême par immersion symbolise mieux notre identification avec Christ dans sa mort et sa résurrection. Ça, c'est une des raisons, mais pas la seule, hein. Il y a d'autres raisons plus fondamentales que cela, hein. Il y a d'autres raisons. Ça c'est un peu en surface, superficielle. Mais il y a d'autres raisons plus profondes pour lesquelles nous pratiquons et nous croyons que le baptême par immersion, c'est le baptême que ça prend. C'est le baptême qu'il faut. Ça ne veut pas dire que si nous sommes quelque part dans un désert, on peut prendre n'importe quel pays, tantôt j'ai pris Gaza ou n'importe quel endroit, que quelqu'un est baptisé par immersion, ça ne veut pas dire que c'est un problème. Mais lorsque les moyens, les conditions sont réunies, c'est le baptême par immersion qui fait du sens à nos yeux, bibliquement, spirituellement, évangéliquement parlant, parce que il symbolise mieux la réalité de notre identification avec Christ dans sa mort et sa résurrection. Vous êtes déjà sans doute fait enseigner cela en classe de baptême. Hein? Et quand je dis ça symbolise mieux, ça reflète mieux ce qui se passe dans l'invisible, c'est-à-dire notre identification avec Christ dans sa mort et sa résurrection, c'est parce que vous avez entendu dire par vos moniteurs de classe de baptême que lorsque le baptisé est plongé dans l'eau, eh bien, ça démontre eh bien, son ensevelissement. Et lorsqu'il est ressuscité, cela démontre sa résurrection. Voyez-vous? Donc, c'est en ce sens que votre frère, votre serviteur vous dit, ça représente mieux en tant que symbole dans le visible, eh bien, ce qui se passe dans l'invisible, c'est-à-dire notre identification mystique et mystérieuse entre le croyant et son Christ et son Sauveur et son Rédempteur, frères et sœurs. Christ, eh bien, est mort, eh bien, nous mourrons avec lui. Et le baptême montre cela très bien. Nous devons toutefois nous rappeler, comme je l'ai dit, que si nous sommes dans un endroit où nous ne pouvons pas pratiquer le baptême par immersion, nous pouvons ne rien faire ou baptiser le baptême par aspersion. J'ai déjà partagé un témoignage avec vous en ce sens, sur lequel je ne reviendrai pas, mais c'est déjà arrivé, mais Dieu jugera de l'efficacité de ce baptême. Dieu dira ce qu'il aura à dire là-dessus. Donc, et maintenant, qui se fait baptiser, à qui est réservé le baptême? Mais poser la question, c'est y répondre. Le baptême est réservé à ceux qui ont la conviction qu'ils ont été identifiés avec Christ dans sa mort et sa résurrection. Hein? Allez, faites de toutes les nations des disciples et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et à celui qui croira sera baptisé et celui qui sera sauvé et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, celui qui reçoit le baptême dans l'Église, c'est celui qui a la conviction du salut. C'est celui qui est persuadé de son salut. Et tout ce qu'on peut demander à quelqu'un qui demande le baptême, c'est ne devrait pas être de lui poser et beaucoup de questions, c'est est-ce qu'il croit qu'il est sauvé réellement? Si la réponse est oui, alors il a droit au baptême. Bien important de comprendre cela. Nous voyons dans le Nouveau Testament des familles qui ont été baptisées. Il y a des hérésies par rapport à la famille aussi, par rapport au bébé, par rapport aux nourrissons, par rapport aux enfants. Bon, enfants, oui, mais bébé, c'est autre chose. Vais simplement vous lire. Ah non. Bon, nous reviendrons sur. Je vais partager avec vous quelques applications avant que je ferme. Donc, je reviendrai sur l'histoire des familles, les familles. Hein, et on reviendra là-dessus. Passons à quelques applications pour terminer avant vos questions, bien entendu. Compte tenu de tout ce qu'on a dit, l'Église, ce n'est pas n'importe quoi. Passons à quelques applications. Compte tenu de tout ce que nous avons dit et compte tenu de ce que nous venons de dire, pensons particulièrement à notre identification à Christ dans sa mort et sa résurrection. L'Église, ce n'est pas n'importe quoi. Tu es un grand homme, vous qui m'écoutez, les hommes. Tu es une grande femme, vous qui m'écoutez, les sœurs. Vous n'êtes pas n'importe qui. Parce que vous avez été identifié avec Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le sauveur du monde, le saint, le juste, le fils de Dieu. Dieu, dans sa mort et sa résurrection, et alors, il vit en vous. Vous le portez dans votre cœur. Vous le portez dans votre esprit, dans votre pensée. Vous le portez dans votre volonté. Quand vous allez vous coucher tout à l'heure, il sera avec vous. La différence, c'est que lui ne dormira pas. Il veillera sur vous. Tandis que vous, vous serez plongé dans des sommeils. Et je dis bien, j'ai choisi mon mot. Pas dans le sommeil, mais dans des sommeils. Hein. Il y a plusieurs sommeils, plusieurs niveaux de sommeil. Il sera avec vous vivant dans votre chambre, dans votre lit. Nous avons besoin, frères et sœurs, de nous encourager les uns les autres. Nous qui sommes l'Église. L'Église a besoin d'encourager l'Église. L'Église a besoin d'aimer l'Église. L'Église a besoin de supporter l'Église. L'Église a besoin de chérir l'Église. L'Église a besoin d'être passionnée de l'Église. L'Église a besoin de soutenir l'Église. Celui qui devient chrétien devient membre du corps de Christ et il dépend non seulement du Christ, qui est la tête, le chef, le capitaine, le fondement, le maître, le propriétaire seul et unique de l'Église, mais il est aussi membre d'un corps avec d'autres membres. Cela dit, frères et sœurs, il est impossible de rester fidèle au Seigneur sans profiter de ce moyen de croissance et d'encouragement qu'est la communauté chrétienne. Chaque chrétien, chaque membre d'église a besoin du contact, de la vie de l'église pour sa croissance. Aucun chrétien ne peut grandir seul. On grandit ensemble dans la grâce du Seigneur. Dieu nous le recommande lui-même. Ne désertez pas votre assemblée comme quelques-uns ont coutume de le faire, mais encouragez-vous mutuellement et d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Donc, il est indispensable que chaque chrétien, chaque église s'engage dans l'assemblée du Christ. Jésus a dit, de même je vous le dis en vérité, si deux d'entre vous sur la terre unissent leurs voix pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Voyez-vous, vous avez besoin du soutien des autres pour la prière. Vous pouvez prier seul quand vient le temps de le faire seul. Mais quand vous êtes appartenu à une église locale, vous priez ensemble, comme le frère Edsel a fait, il a nommé une liste de prières. Moi, j'ai rajouté un nom. C'est à cela aussi que sert l'église. Et si Dieu nous met ensemble, il a une raison de nous mettre ensemble. Si Dieu ne m'a pas appelé à être église seule, je ne dois pas être église seule. Si je suis église seule, je dois me questionner sur mon identification avec Christ dans sa mort et sa résurrection, parce que celui qui est mort pour moi, celui en qui eh bien, je suis mort et en qui je suis ressuscité m'appelle à vivre l'Église en communauté, dans l'assemblée. C'est très important, mes frères et mes sœurs. La prière, l'exhortation mutuelle, l'enseignement des apôtres, voilà ce que nous sommes appelés à faire ensemble en Église locale, frères et sœurs, mes bien-aimés. Que le Seigneur, dans sa grâce, continue de nous amener à rencontrer ce projet qu'il a pour notre vie. Soyez bénis. Si vous avez des questions, c'est le temps. Juste me laisser arrêter l'enregistrement rapidement, s'il vous plaît.